J'appelle à présent le professeur Eric Getch, oui, qui allait nous montrer aussi un champ qui progresse énormément, lui. C'est le champ du diagnostic. Et avec cette question, peut-on voir les lésions de la maladie chez les patients? Je rappelle que vous êtes chef du service médecine nucléaire aux hôpitaux universitaires de Marseille.
Merci, merci beaucoup pour l'introduction et puis pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous et puis heureux de vous accueillir en tant que local sur Marseille pour ces journées scientifiques sur l'Alzheimer. Donc on va trouver une belle articulation avec le topo précédent. Je vais effectivement vous parler d'imagerie, de biomarqueurs d'imagerie pour la maladie d'Alzheimer. Il faut que je trouve comment on avance. Voilà. Alors, on a posé le titre de manière interrogative. Peut-on voir lésions et maladies d'Alzheimer chez les patients? La réponse est évidemment oui, vous le savez, ça a été dit sur le premier topo par mon collègue. Donc je vais surtout essayer d'illustrer, je vais dire, la question et la réponse. Je vais vous montrer des examens et des résultats en imagerie. En réalité, mais là encore, ça a été évoqué brillamment par mon collègue, les questions qui restent aujourd'hui posées et ouvertes, c'est d'abord, est-ce que véritablement les lésions de la maladie d'Alzheimer se limitent à cette double protéinopathie, les dépôts amyloïdes et la tauopathie? Est-ce qu'on est véritablement sur des lésions qui sont causales ou est-ce qu'on est sur des facteurs de risque? Et puis la deuxième question qui a aussi été abordée par mon collègue, on a effectivement aujourd'hui des médicaments qui sont efficaces sur ces lésions, qui nettoient littéralement nos examens d'imagerie, qui négatifient les examens d'imagerie, mais est-ce que tout ça a véritablement un impact sur le devenir du patient, le pronostic et son évolution? Alors je vous disais, évidemment, oui, on peut voir en imagerie des lésions. En général, lorsqu'on m'invite sur une conférence et qu'on me demande de pousser un petit peu les indications de l'imagerie, en général, la question qu'on me pose, c'est est-ce qu'on peut imager des dysfonctionnements cérébraux? Alors, je commence cette courte introduction par vous montrer quelques exemples sur des maladies très fonctionnelles. Le premier exemple, c'est une maladie psychiatrique. On est encore dans le domaine, effectivement, de la recherche. Mais oui, on peut imager des lésions dans la maladie d'Alzheimer. Et plus encore, on image même aujourd'hui, en tout cas en recherche, des dysfonctionnements dans les pathologies psychiatriques. Alors, je vais essayer de pointer un petit peu. Vous avez ici un examen de la perfusion cérébrale chez un sujet sain. C'est un examen qui est normal. Et vous voyez que sur une dépression isolée, même du sujet jeune, on trouve des anomalies individuelles, certaines régions cérébrales. Et lorsqu'on applique des outils statistiques plus performants, on met en évidence des anomalies qui sont beaucoup plus diffuses, qui ont un intérêt pour le diagnostic différentiel de la dépression. On peut d'ailleurs poser la question de la maladie d'Alzheimer, qui ont un intérêt aussi sur les maladies résistantes pour faire la stimulation cérébrale, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et en pratique dans la dépression, cette région qu'on va stimuler. Donc oui, évidemment que l'imagerie, je dirais, a une certaine avance à la fois sur les lésions, évidemment sur les dysfonctionnements. Je voulais prendre un deuxième exemple plus neurologique. La maladie de Parkinson. Alors, je ne sais pas si on peut qualifier la maladie de Parkinson comme une maladie fonctionnelle. Quoi qu'il en soit, c'est un désordre qui est de nature hormonale, neuro-hormonale. C'est une baisse de la dopamine sur le mécanisme neurodégénératif au niveau cérébral. Il y a peu ou pas de lésions observables en IRM. Les IRM sont en général normales. Mais là, ce n'est pas de la recherche. On a à notre disposition des outils qui permettent de mesurer du vivant du patient ces niveaux d'expression dopaminergique. Vous avez ici un examen qui est strictement normal et ici une diminution de l'activité dopaminergique. On va y revenir pour la maladie d'Alzheimer. Vous voyez, alors j'ai beaucoup de diapositives qui sont écrites en anglais, c'est plus pour ne pas oublier pour moi, mais je vais toutes les commenter, ne vous inquiétez pas. C'est un marqueur qui est extrêmement précoce. On estime que, je reste sur l'exemple de la maladie Parkinson, je vais rapidement venir à la maladie d'Alzheimer, que pour que le patient ait les premiers symptômes moteurs de la maladie Parkinson, il faut déjà qu'il y ait 50% de perte de dopamine, donc 50% d'hypoactivité. Donc on est déjà sur une problématique diagnostique précoce. La dépression, c'est de l'innovation, c'est de la recherche. Là, c'est du soin. Ce sont des actes qui sont nomenclaturés, qui sont recommandés, qui ont un remboursement. Alors on va en venir à la maladie d'Alzheimer. Bon, il y a plusieurs stratégies d'exploration en imagerie de la maladie d'Alzheimer. on avait, depuis plusieurs années, des explorations fonctionnelles qui étaient assez peu spécifiques. Vous avez ici l'exemple d'une imagerie TEP du métabolisme du glucose, du sucre. On mesure la consommation de sucre par le tissu cérébral. Et la consommation de sucre, c'est un biomarqueur du fonctionnement cérébral global. Là, vous avez l'exemple d'un sujet sain avec une répartition qui est homogène de la consommation de glucose au niveau du cortex. Je vous montre l'exemple d'un patient avec une maladie d'Alzheimer, je dirais même une démence d'Alzheimer. Donc on est à un stade qui est clinique, un stade avancé de la maladie. Je peux peut-être revenir en arrière. Donc, on voit évidemment le contraste très évident avec cette atteinte qui est diffuse. Vous savez que la définition de la maladie d'Alzheimer, c'est une atteinte dans différentes sphères cognitives, donc une atteinte cérébrale qui est diffuse, qui ne touche pas complètement l'ensemble des systèmes. On voit que certaines régions sont préservées. Par exemple, ici, les régions motrices, donc la motricité reste préservée longtemps. Le cortex visuel ici, donc la vision reste préservée longtemps. Mais on a des anomalies qui sont assez étendues, multilobaires, à la fois sur des régions qu'on appelle associatives et puis les régions limbiques, notamment le cortex hippocampique qui est impliqué dans la mémoire. Bon, là, je vous ai montré un examen qui est un patient qui a une maladie qui est avancée. On a bien vu que le contraste était évident avec un sujet sain. C'est parfois plus compliqué. Là, c'est aussi une maladie d'Alzheimer clinique, mais qu'on appelle prodromale. Donc, c'est une maladie qui débute typiquement par des troubles de la mémoire. C'est des patients qui ne sont pas forcément encore très impactés d'un point de vue fonctionnel, qui peuvent continuer à travailler. On parle, vous savez, par exemple, de déficit cognitif léger. Alors là, vous voyez qu'on n'a pas cette hypométabolisme glucidique global. Par contre, si on est attentif, il suffit de comparer un hémisphère à l'autre, on voit des toutes petites anomalies dans des régions qui sont très spécifiques au niveau des régions associatives postérieures, au niveau du cingulum postérieur. En soi, ces anomalies ne sont pas spécifiques, on n'est pas sur les anomalies de la protéine, mais la distribution spatiale de ces dysfonctionnements évoque une maladie d'Alzheimer. Alors, on va maintenant avancer sur des biomarqueurs qui sont encore du domaine de la recherche, en tout cas pour beaucoup aujourd'hui en France. Et donc, je vais vous parler de cette imagerie TEP, de la double protéinopathie, ça a été dit par mon collègue. Donc, les pistes qui sont mises en avant aujourd'hui, c'est à la fois l'hyperphosphorylation de la protéine Tau et ses dépôts amyloïdes. Dans les deux cas, ce sont des anomalies de protéines. Et vous voyez ici, sur un examen de recherche, qu'on est capable de mettre en évidence du vivant du patient l'hyperphosphorylation de la protéine Tau. Alors aujourd'hui, en France, c'est un examen de recherche. C'est un examen qui est autorisé en clinique dans le cadre du soin courant aux États-Unis, je crois, depuis 2 ans. C'est un examen qu'on a réalisé sur le plan Timone, dans mon service, donc avec la collaboration de l'équipe du professeur Secaldi. Comme ça a été dit, aujourd'hui, il y a des essais. Il y a des essais thérapeutiques avec des anti-amyloïdes, des anti-taux. Et effectivement, cette imagerie, c'est un moyen d'indiquer ces traitements, à la fois de traiter les patients et puis d'évaluer l'efficacité, au moins sur l'image, de ces traitements. Alors, je ne vais pas en dire plus sur l'imagerie Tau. C'est quelque chose qui est un petit peu plus, je dirais, émergent, même si je vous ai dit que ça fait 2-3 ans que c'est autorisé en clinique aux États-Unis. Je vais surtout vous parler de l'imagerie, je reviens en arrière, de l'imagerie des plaques amyloïdes. Ça a été dit, encore une fois, et brillamment par mon confrère. Mais encore quelques années, on apprenait dans nos facultés de médecine que la maladie d'Alzheimer du vivant du patient, c'était un diagnostic, on disait possible ou probable. Et on disait que la certitude diagnostique a été assez théorique. C'était la biopsie cérébrale, qu'on faisait évidemment jamais, ou l'autopsie. Qu'est-ce qu'on allait chercher en théorie sur ces prélèvements ? La double protéinopathie, en particulier ses dépôts amyloïdes. Et vous voyez qu'on a à notre disposition aujourd'hui, et depuis en recherche depuis maintenant plus de 10 ans, j'y reviendrai, des traceurs qui vont passer la barrière hémato-encéphalique et qui vont se fixer sur ces plaques amyloïdes. Ici, c'est un patient, je ne dis pas qu'il a une maladie d'Alzheimer, je dis qu'il a une amyloïdopathie, pour répondre à la question précédente. Et ici, c'est un patient qui n'a pas d'amyloïdopathie, donc qui n'a pas de maladie d'Alzheimer. J'y reviendrai. En réalité, la force de l'examen, c'est surtout l'examen négatif. Et c'est comme ça que les recommandations sont rédigées. Un examen négatif, il n'y a pas d'amyloïdopathie, donc il n'y a pas de maladie d'Alzheimer. Alors, pour répondre à la question du décours temporel, je vais essayer de vous montrer une vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est la régie qui la passe.
Normalement, oui. Oui, je crois. On fait signe.
Alors, c'est un modèle particulier, c'est le fameux modèle qu'on a évoqué, génétique de la maladie d'Alzheimer, qui est assez exceptionnel. Et donc là, vous avez le décours temporel, le nombre d'années avant les premiers symptômes. Je ne parle pas de démence, avant les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Alors, on peut la repasser, mais on voit en fait que 10 ans, 15 ans, même 20 ans avant les premiers symptômes, les sujets qui ont la mutation, mais qui sont asymptomatiques, on observe déjà des dépôts de plaques amyloïdes. Donc ces dépôts de plaques amyloïdes sont extrêmement précoces. Et par contre, vous voyez, lorsque le patient a les premiers symptômes, la charge amyloïde est installée, il n'y a plus de variation d'accumulation de plaques amyloïdes. Donc vraisemblablement, et pour répondre à votre question, l'intérêt potentiel de ces traitements anti-amyloïdes se situe évidemment au moment de cette charge amyloïde, donc à un stade très débutant de la maladie, voire même pré-symptomatique. Alors juste, je ne vais pas faire beaucoup de littérature, mais quand même dire que c'est d'abord un développement universitaire. Donc ce n'est pas un développement d'un industriel, c'est un développement d'une université, université américaine, l'université de Pittsburgh. Alors je regarde toujours la date, parce que depuis le temps que je suis le topo, le temps passe, donc c'est 2004. Vous voyez, ça va faire 20 ans, en réalité, je dis 10 ans, ça va faire 20 ans que la CIB a été découverte par l'université. Depuis, si vous connaissez l'histoire, ça a été racheté par des gros laboratoires. En l'occurrence, celle-ci a été rachetée par General Electric, mais c'est vraiment de très gros laboratoires qui sont investis ensuite sur ce type de cible. Je passe rapidement sur la validation, mais des études de corrélation à l'autopsie, donc des patients qui étaient très âgés, à qui effectivement les examens avaient été faits, qui avaient donné l'accord pour une autopsie, donc il y a des corrélations qui ont été faites et qui ont montré effectivement la parfaite concordance entre l'imagerie et l'autopsie. La difficulté, c'est le point que vous souleviez. Effectivement, chez les sujets asymptomatiques, sans symptômes, sans plainte, à partir de 75 ans, il y a en gros un tiers de sujets qui ont des plaques amyloïdes. Et donc la question qui est posée, c'est celle de l'imputabilité. Ces sujets-là, ils sont peut-être au début d'une maladie biologique, ils feront peut-être ou pas, ils ont 75 ans, une maladie d'Alzheimer clinique dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, peut-être qu'ils n'en feront pas. Et donc effectivement, ça a été dit, mais autant l'examen négatif apporte une certitude, il n'y a pas d'amyloïdopathie, il n'y a pas de maladie d'Alzheimer, un examen positif soulève souvent plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Je passe sur la diapositive, elle a été montrée, l'intérêt des biomarqueurs qui se positivent avant les symptômes. Je redis que, effectivement, une fois que les patients ont les premiers symptômes, il n'y a pas plus d'accumulation de plaques amyloïdes. L'examen est très reproductible, donc il n'y a pas d'intérêt à répéter l'examen. Et donc l'intérêt, c'est véritablement les phases très initiales de la maladie, peut-être même les phases pré-symptomatiques. Mais on rentre en discussion qui sont effectivement, est-ce qu'il faut aller vers du dépistage. Et puis, évidemment, l'intérêt, l'articulation qui a été montrée par notre confrère sur le développement des médicaments qui vont pouvoir agir sur la plaque amyloïde ou sur tout. Ça, je vous l'ai dit, c'est effectivement pas spécifique en réalité de la maladie d'Alzheimer, c'est spécifique de l'amyloïdopathie. On peut citer la démence à Cordes-Lévy. Il y a très souvent une amyloïdopathie dans la démence à Cordes-Lévy. Alors c'est en anglais, je m'excuse, mais c'est donc l'AMM européenne, donc l'autorisation de mise sur le marché de ces médicaments. Vous voyez que c'est déjà très très long lorsque l'examen est positif, ce qui est le plus intéressant, c'est l'examen négatif. Et là, clairement, donc ce n'est pas un avis, je dirais, personnel ou une interprétation, c'est le libellé de l'autorisation de mise sur le marché. Un examen négatif indique qu'il n'y a pas d'amyloïdopathie, ce n'est pas compatible avec une maladie d'Alzheimer. Donc on exclut la maladie d'Alzheimer si l'examen est négatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, évidemment, une maladie cérébrale autre, mais ce n'est pas une maladie d'Alzheimer. À l'inverse, si l'examen est positif, là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est compatible avec une maladie d'Alzheimer, mais ça peut être une démence à Cordes-Lévy, et puis on le retrouve également chez les sujets âgés asymptomatiques. Donc un discours qui s'ouvre un petit peu compliqué. Bon, en tant qu'imageur, c'est qu'il y a beaucoup de développement aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Je veux simplement vous dire effectivement que là aussi, beaucoup d'industriels s'investissent sur ces problématiques de quantification pour obtenir des seuils. C'est peut-être un petit peu, mais l'idée, c'est d'avoir en fait un seuil, un Z-score par rapport à des sujets sains et d'avoir une quantification précise qui est topographique, c'est-à-dire qu'on va identifier quelles sont les régions du cerveau avec ses dépôts. Donc c'est un avantage compétitif par rapport à la prise de sang. La prise de sang, c'est un seuil, mais vous ne savez pas finalement si c'est plutôt frontal ou pariétal, une information régionale, et qu'on peut quantifier et qu'on peut suivre avec l'action des thérapeutiques. Rapidement, s'il me reste encore un petit peu de temps, je voulais dire aussi quelques mots effectivement.
Il reste 3 minutes.
Ok, je voulais dire quelques mots de la thérapie, mais ça a été dit par notre collègue. Évidemment que ces biomarqueurs ont bouleversé le montage de ces projets. Ça a été dit initialement, ces études de médicaments étaient négatives. Ces anti-amyloïdes, tout simplement parce qu'en réalité, on incluait des patients qui avaient une suspicion de maladie d'Alzheimer, ce qui prouve qu'il y a probablement aussi un surdiagnostic clinique de maladie d'Alzheimer. En réalité, il y avait peut-être un tiers des patients, plus de 25% en tout cas, qui n'avaient pas d'amyopathie. Donc ça explique pourquoi les traitements avaient échoué. Donc aujourd'hui, c'est utilisé en routine, et puis également pour suivre l'efficacité des traitements. Vous avez effectivement l'ensemble des indications. La question qui reste posée, peut-être pour terminer, c'est est-ce que ça, c'est de la recherche ? Est-ce qu'il y a un intérêt en clinique dans le cadre du soin ? J'essaye d'y répondre rapidement. Un certain nombre d'éléments, la maladie d'Alzheimer reste à la fois sûre et sous-diagnostiquée. On ne diagnostique pas les bons patients, le diagnostic est souvent tard. Il y a beaucoup d'erreurs diagnostiques. Je vais essayer de mettre un petit peu quelques explications, des explications y compris sociétales. Vous êtes confrontés à ces éléments-là, c'est normal, c'est le vieillissement. Le vieillissement normal, ce n'est pas une maladie, la maladie d'Alzheimer. Donc effectivement, on n'en fait pas le diagnostic. Il y a des problèmes aussi de disponibilité de ressources, de disponibilité d'infrastructures. Et puis le point qui me paraît important et qui répond un petit peu à la question que vous posez, on a une vue clinique, qui est une bonne chose, très symptomatique de la maladie. Une maladie, il faut que le patient ait des symptômes. C'est comme ça qu'on apprend les choses en faculté de médecine. Pour le diabète, heureusement qu'on n'attend pas que les patients aient des complications du diabète ophtalmo ou des amputations pour dire que vous avez peut-être un diabète. Et donc, il y a peut-être effectivement une transition à faire d'un diagnostic qui est très traditionnel, posé sur la clinique et sur les symptômes. C'est important, les symptômes, c'est la parole des patients. Mais il y a peut-être aussi des diagnostics un petit peu plus précoces et des définitions plus biologiques des maladies à considérer. Alors, il y a des recommandations qui ont été publiées du bon usage clinique de ces traceurs d'imagerie amyloïde. Je ne vais pas y revenir. S'il y a des questions, j'y répondrai. Il y a un élément qui est toujours intéressant à relever. Vous savez que si vous avez fait, il faut que je le retrouve, les usages non médicaux, si vous avez fait des prêts pour une maison, pour un appartement, vous avez peut-être fait un bilan de cholestérol, vous avez fait pédaler. Il y a tout un débat pour dire est-ce qu'il ne faudrait pas faire de la thérapie amyloïde. Bon, là, on dit que ce n'est pas une bonne idée. Je vous ai dit que l'imagerie tau était utilisée aux États-Unis en clinique. L'imagerie amyloïde, elle est très largement utilisée en Europe. Alors, il n'y a pas la France, mais depuis quelques semaines, depuis la fin de l'été, l'HAS a autorisé l'imagerie des plaques amyloïdes. Je crois que j'ai une diapo. Alors, ça vient en compétition un petit peu avec ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec la ponction lombaire. Donc, en réalité, c'est les patients qui ne peuvent pas bénéficier de ponction lombaire ou qui ont un résultat qui est indéterminé après une ponction lombaire qui pourraient avoir accès en clinique, en soins, avec un remboursement pour cette imagerie. La question qui reste posée, je mets plus un point d'interrogation, c'est est-ce qu'il faut qu'on aille vers un diagnostic plus précoce, indépendamment de ce qu'on a dit pour les essais thérapeutiques. Voilà, je vous ai listé un certain nombre d'arguments, ça permet de valider, je dirais, les symptômes, de préparer, d'anticiper un petit peu la suite, de donner des conseils, en termes de nutrition, des conseils éducatifs. Il y a des traitements à faire, et puis ça permet aussi d'orienter les patients vers les essais thérapeutiques. Alors, la diapositive, je concluais sur un topo précédent sur les essais thérapeutiques. En tout cas, Amélie Alzheimer, elle peut aujourd'hui, on a les outils disponibles en imagerie, demain sans doute en biologie, pour faire un diagnostic précoce. Est-ce qu'on doit faire un diagnostic précoce ? Probablement qu'il faut attendre effectivement les résultats de ces études en imagerie, en thérapie, pardon. Mais si effectivement les signaux sont favorables, si effectivement on a des pistes qui deviennent concluantes, il est évident que l'imagerie, ces biomarqueurs joueront un rôle central, à la fois pour indiquer ces traitements et pour suivre les patients. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Je vous ai fait courir, hein, je suis désolée. Vous me rejoignez, vous prenez un petit micro et on va faire passer bien évidemment dans la salle. Voilà. On va commencer, toujours la première question est toujours un peu plus difficile à poser. Ça évolue sur de très longues années. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, comme dans d'autres maladies, la plasticité cérébrale joue et que des zones, chez certaines personnes, arrivent à prendre le relais de celles qui sont mortes ? Est-ce que vous le voyez ? Et est-ce que c'est possible ?
Oui, il y a des études sur le sujet. Je dirais que c'est encore plus vrai chez les sujets les plus jeunes. C'est encore plus vrai chez les sujets qui ont un entraînement, on va dire, cognitif, voilà, qui font des exercices, je dirais, réguliers. On n'est pas tous égaux, je dirais, devant la maladie. Les sujets qui ont un haut niveau éducatif seraient plus préservés aussi parce qu'ils auraient plus...
C'est vérifié, ça on a...
c'est des résultats d'études en neurosciences et en neuroimagerie, mais oui, à l'échelle du groupe, ça ne veut pas dire que ces sujets-là ne font pas de maladie d'Alzheimer, mais pour une même charge lésionnelle, ils auront moins de symptômes parce qu'effectivement, comme vous disiez, il y a de la compensation fonctionnelle.
Juste... Vous la voyez à l'imagerie ? C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que quand vous suivez les patients comme ça régulièrement, est-ce que vous voyez d'autres zones s'allumer pendant que certaines meurent ?
Alors, de façon en fait indirecte, et c'est même une difficulté, je dirais, à l'interprétation, très souvent on met en avant l'imagerie fonctionnelle en disant que la dysfonction va précéder la lésion. Parfois, on voit à l'IRM des lésions, on voit de l'atrophie, et par contre, on ne voit pas de retentissement fonctionnel sur la perfusion ou sur le métabolisme. C'est qu'il y a effectivement une perte de neurones, donc une perte de substances, mais les neurones restants ont une hyperactivité synaptique qui fait que la perfusion et le métabolisme est conservé. Donc on le voit de façon indirecte. Et puis, y a des traitements symptomatiques qui permettent, je dirais, voilà, de favoriser, de stimuler cette compensation. Et puis, tout le travail qui est fait avec les neuropsychologues, avec les orthophonistes en rééducation, c'est aussi des éléments qui permettent...
C'est une voie thérapeutique, alors, celle-ci, finalement. C'est d'une certaine manière une voie thérapeutique, si on peut... Stimuler des zones qui viennent, même au niveau de la mémoire ?
Oui, mais c'est des exercices qui sont faits. Après, la difficulté, c'est plus l'accès, je dirais, à ces ressources. Les orthophonistes, les neuropsychologues sont vraiment des ressources qui sont peu nombreuses sur le territoire et difficiles, je dirais, à mobiliser. Mais ça fait partie, je dirais, on peut en avoir une vision, je dirais, recherche très neuroscientifique, un petit peu comme je vous l'expliquais, en vous montrant que ça active certaines régions du cerveau. Mais bon, aujourd'hui, ça devrait être un standard. Des patients qui sont une phase, je dirais, débutante de la maladie devraient pouvoir bénéficier d'une rééducation, c'est le cas, une rééducation orthophonique ou d'une stimulation cognitive, c'est des choses qui sont faites.
Merci. Bon, je n'ai pas posé tout. Allez-y, n'hésitez pas, manifestez-vous. Il y a un ou deux micros. Oui, madame, bien sûr, on vous fait parvenir tout de suite le micro. Il arrive. Merci.
Bonjour. Merci pour votre intervention. Merci pour la vôtre. J'ai une maman qui a déclenché, alors sûrement que les symptômes étaient là depuis longtemps, mais voilà. Ce qu'on dit une maladie d'Alzheimer, parce que en fait, moi, ce qui me gêne dans le terme Alzheimer, c'est que en fait, elle est en unité Alzheimer fermée depuis 10 ans, et que en fait, derrière Alzheimer, c'est comme en mathématiques, il y a un groupe, et puis il y a des sous-groupes. Et dans ces sous-groupes, on trouve de tout. Il y a de la démence, il y a de l'Alzheimer, et puis il y a une encéphalite limbique, comme elle a ma maman. Mais en fait, on met tout sous le nom d'Alzheimer. Et le souci, c'est que quand la maladie a été déclarée au niveau du cerveau, c'est-à-dire que quand à Saint-Joseph, elle a fait des analyses suite à un cancer du sein non détecté, donc c'est une encéphalite limbique de base, mais qu'on mentionne comme Alzheimer à la fin, au final. Depuis 10 ans, les traitements, quand elle est en EHPAD, la famille n'en est pas informée. Donc on ne sait absolument pas ce qu'elle prend.
On va pouvoir aborder ces questions-là après, vous inquiétez pas. Non, lors de la prochaine
intervention.
C'est-à-dire
qu'en dehors du médecin traitant qui vient, bah, nous, on ne peut pas savoir ce qu'elle prend. C'est interdit. Donc il y a un blackout total sur le traitement qu'elle a. On sait qu'il n'y a pas de, de psychomotricien à l'EHPAD où elle est. Il n'y a pas d'orthophoniste. C'est-à-dire que depuis 10 ans qu'elle est là-bas, elle n'a jamais eu, à part un peu de rééducation fonctionnelle au début, c'est-à-dire kiné, un peu le PASA et tout, il n'y a rien.
Ça, c'est des questions autour de la prise en charge sur lesquelles on va effectivement revenir. Vous avez pas évoqué, mais par contre, vous avez posé une question intéressante aussi. Voilà. Enfin, toute votre intervention est intéressante. Mais vous avez posé la question de la finesse du diagnostic.
Oui.
Effectivement, on se retrouve devant une... D'ailleurs, les chiffres se contredisent, on ne sait pas quelles sont leurs sources. Là, madame a raison de poser cette question-là, au-delà du témoignage qu'on pourra...
Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément une Alzheimer qu'elle a.
Oui, c'est ça.
Une zone qui s'éteigne, et le neurologue avait bien dit, chaque fois qu'une zone du cerveau va s'éteindre, c'est comme un plafonnier, il y a une lumière qui va s'éteindre, et à cette lumière, une fonction cognitive va s'éteindre. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'un coup, ça a été la marche, mais ça n'a jamais été remplacé par autre chose. Et là, elle est, au bout de 10 ans, agressive, violente, elle ne reconnaît plus personne. Et donc, en fait, comme elle a une bonne condition physique, ça peut durer encore, malheureusement pour elle, je vais dire, des années.
Bien sûr.
Il n'y a pas de traitement. Moi, je n'ai pas entendu parler de traitement qu'on lui donne pour pouvoir la faire aller mieux.
Oui, cette confusion dans le diagnostic, bien évidemment. Merci, madame.
Je peux évidemment essayer de vous répondre, madame, au moins sur la première partie de votre question. Je vais vous donner mon avis personnel, qui est partagé sans doute par beaucoup de collègues. Il est évident aujourd'hui que ce qu'on appelle maladie d'Alzheimer recouvre peut-être des réalités qui sont assez différentes en termes de sévérité, vous l'avez évoqué, peut-être aussi en termes de profil, je dirais, de la maladie. Par rapport à ce qui a été montré par mon confrère et ce que je vous ai montré, peut-être que dans 10 ans, je ne dis pas qu'on ne parlera plus de maladie d'Alzheimer, mais si on a des médicaments qui sont actifs sur des mécanismes lésionnels, sur les dépôts amyloïdes, sur la phosphorylation de la protéine tau, sur l'inflammation, par exemple, vous avez parlé d'encéphalite, en réalité, peut-être qu'on classifiera ces maladies différemment. Ils n'auront pas le nom d'un médecin, par exemple, mais on les classifiera en fonction des interventions thérapeutiques possibles. Je vous ai dit par exemple que l'aminopathie, on la retrouve également dans la démence à Cordes-Lévy. Ben, peut-être que dans 10 ans, ce qui sera important de faire, c'est de façon précoce, ce diagnostic d'aminopathie, qui soit lié à une maladie d'Alzheimer ou une démence à Cordes-Lévy, et qu'on aura, il faut l'espérer, c'est encore de la recherche, des traitements efficaces qui pourront agir sur ces cibles. On n'aura peut-être pas le traitement de l'Alzheimer, on aura peut-être des traitements qui permettront d'agir sur chacune de ces cibles. Et là, effectivement, il y aura peut-être une redéfinition de ce que sont véritablement ces maladies.
Mais peut-être, alors, j'ai envie de reposer la question du coup à monsieur, à docteur Genton. Est-ce qu'on n'a pas jeté trop rapidement des essais cliniques à la poubelle alors qu'il marchait peut-être sur 5% des patients, parce que cette maladie, elle est compliquée et qu'elle ne va pas marcher sur des grands nombres, mais peut-être que sur des petits nombres très spécifiques, elle pourrait marcher. Est-ce qu'on ne pourrait pas ressortir tous ces essais et en tirer des...
Alors, c'est un très bon point, effectivement. C'est qu'il est toujours très important de regarder aussi, dans ces études qui sont quand même de domaines où on défriche encore, de regarder s'il y a des sous-groupes qui répondent.
Des sous-groupes
et en particulier, et en général, c'est regarder, parce que les labos sont évidemment intéressés de savoir si...
Y a quelque chose à savoir. Est-ce qu'ils vont faire tous ces boulots pour 5%?
S'ils le font... Parce que ça permet d'avancer dans la recherche, justement, que c'est quand même... Il y a quand même des chercheurs, mais là où il n'y a pas que des marketeurs, heureusement. Et justement, pour les fameux traitements dont on a parlé tout à l'heure, en particulier lecanemab, il y a un effet indéniable, donc on est très content, mais il y a forcément aussi des effets indésirables.
Bien sûr.
Avec ce type de produit, parce qu'il bouffe il boulette la plaque, si je peux m'exprimer ainsi.
Grave.
Près d'un vaisseau, ça peut saigner, ça peut faire de l'œdème, donc il y a des complications, il y a des choses à surveiller. Et donc, la balance risque-bénéfice, elle est très importante, évidemment. Et une des choses qu'on attend en novembre, c'est que le laboratoire, justement, nous présente s'il y a des sous-groupes pour lesquels le bénéfice est plus important et le risque moindre. Parce qu'actuellement, la balance, le bénéfice n'est pas extraordinaire. Et on est content de l'avoir, ça valide la piste amyloïde, mais on espère mieux.
Juste pour une petite dernière question, parce que vous avez abordé très rapidement, il y a plein de pays en Europe, notamment, qui prennent en charge ce PET scan pour le diagnostic. La France traîne la patte, parce que j'imagine que le coût est énorme. Mais vous avez annoncé que... Non, ce n'est pas pour une question de coût, mais c'est quand même mieux qu'un prélèvement de liquide céphalo-rachidien. Enfin, c'est moins dangereux et moins douloureux. Est-ce que vous pensez qu'on s'oriente vers rapidement cette possibilité pour le plus grand nombre ?
Alors, c'est le cas aujourd'hui, puisque la chaîne...
Vous avez dit en cas d'échec de...
Oui, c'est ça.
Ah, pardon, je vous ai écouté.
Oui,
hein.
Vous avez tout à fait raison. Donc, effectivement, c'est un nombre limité de patients. Je pense qu'on peut avoir un élargissement des indications. Il faudra attendre les progrès des essais thérapeutiques. Aujourd'hui, c'est une première, effectivement, possibilité chez les patients qui ne peuvent pas bénéficier d'une ponction lombaire. Par exemple, les patients qui sont sous anticoagulants, un risque d'arrêter anticoagulant pour une maladie cardiaque. On ne va pas aller faire une ponction lombaire, on pourra aller faire le PET. La ponction lombaire, ça sera peut-être expliqué mieux par d'autres collègues, ça garde quand même un intérêt, y compris pour les diagnostics différentiels, vous avez évoqué, madame, l'encéphalite. On mesure différents marqueurs, donc ce n'est pas forcément une compétition avec l'imagerie. C'est évident que c'est plus facile de réaliser une imagerie qu'une ponction lombaire. Je ne suis pas persuadé par l'argument du coût, parce que le coût, ce n'est pas celui de l'examen qu'on fera une fois chez... C'est un patient, c'est
ouais, mais 900 000 personnes, c'est beaucoup. Hein.
C'est le coût en réalité de la maladie d'Alzheimer qui est très très lourd. Le coût médical, le coût social, c'est pas le coût d'un examen, je dirais, isolé. Et en réalité, les études ont montré, alors peut-être pas en France parce qu'il n'y a pas encore, d'autorisation, mais qu'au final, ça permettait, si vous voulez, de réduire une certaine errance médicale et de diminuer en réalité des coûts de prise en charge. Donc il y a peut-être d'autres raisons qui font que, mais voilà, là, l'HAS a donné un signal qui est très positif après plusieurs échecs, et donc il faut s'en réjouir.
Et éthiquement, qu'est-ce que vous en pensez ?
Éthiquement, c'est toujours une discussion.
Est-ce qu'on peut dépister quand on n'a pas encore de réponse thérapeutique ?
Alors, c'est pas de dépister, c'est diagnostiquer.
Diagnostiquer quand on a...
C'est diagnostiquer, et c'est toujours une discussion, je dirais, avec le patient, avec son entourage, et avec le médecin. Il y a des patients qui ne souhaitent pas, évidemment, il ne faut pas aller, faut pas forcer des diagnostics, mais voilà, c'est, vous savez, des maladies incurables pour lesquelles on n'a que des traitements symptomatiques, malheureusement, on en a beaucoup, et le diagnostic, c'est déjà un premier, je dirais, devoir médical du médecin par rapport à son patient. Et enfin voilà, ça évite, je dirais, une certaine errance médicale. Ça permet de corriger les diagnostics, peut-être d'améliorer également les prises en charge. Donc c'est évidemment qu'il y a des questions, je dirais, derrière ça. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'autres débats qui interfèrent, notamment le côté économique.
Merci beaucoup, professeur Gage. Ah pardon, on peut prendre une petite dernière question. Oui, derrière. Ah, deux questions, alors. Rapides et les réponses courtes.
Merci. Et après, bonjour, merci pour votre intervention. Ma question va tourner autour des examens. Moi, j'ai une maman qui est effectivement, bon, je pense qu'on est tous là pour ça, qui a un Alzheimer qui s'est déclenché en 2016, peut-être même un petit peu avant, qui se dégrade petit à petit. Puis, début d'année, elle a décompensé. Et moi, ma question, c'est pourquoi attendre 6 ans pour faire un IRM à ma mère, sachant qu'elle a vu des médecins, qu'elle est suivie par un neurologue depuis 2020, et que sa maladie a progressé, et que personne n'a rien fait. Il a fallu que je sois dans une situation, parce que je suis fille unique, avec un papa opéré d'un cancer du poumon en début d'année, c'est ce qui a fait que ma mère a décompensé. Donc là aussi, j'aurais une deuxième question. Est-ce que les chocs émotionnels ont un impact au niveau cérébral? On nous dit que non, et puis certains disent que oui. J'ai perdu un frère il y a 36 ans, donc on pense aussi que c'est dû à ça. Mais ma question est, pourquoi attendre aussi longtemps pour faire des examens tels que IRM tout de suite, alors qu'on nous fait faire des radios, des scanners qui servent à rien? Il faut qu'on attende 6 ans pour faire une IRM et dire, ah ben oui, hein, on voit bien que les zones sont bien atteintes, oui, depuis fort longtemps.
Merci madame pour cette question. Et juste une question après sur la droite.
Oui. Rapidement, bon, c'est toujours difficile de se prononcer sur des cas individuels. Vous avez parlé beaucoup de l'imagerie PET, mais l'imagerie IRM, c'est une imagerie qui est incontournable. dans le diagnostic initial de la maladie d'Alzheimer, le premier devoir du médecin, c'est déjà d'exclure, je dirais, une autre cause. Et dans cette problématique-là, ben voilà, des prises de sang pour chercher le diagnostic, et l'IRM, c'est un outil qui est indispensable et qui est recommandé.
Et pourquoi les scanners avant et les choses comme ça ?
Le scanner, en réalité, c'est un examen qui a un rendement qui est très très pauvre par rapport à l'IRM. On peut voir quelques lésions vasculaires. Mais voilà, si effectivement le patient, pour X raisons, ne peut pas avoir une IRM, c'est mieux d'avoir un scanner que de ne rien avoir. Mais si le patient peut avoir une IRM, il vaut mieux faire effectivement une IRM. Et puis rapidement, sur la question du choc émotionnel, bon, ce sont des maladies qui sont effectivement multiparamétriques, et évidemment que des circonstances plus fonctionnelles, mais y compris même des comorbidités psychiatriques, une dépression, ces choses qui vont aussi aggraver, je dirais, l'état du patient. Ça reste, je dirais, une expression cérébrale.
Comme la dépression ?
Oui, par exemple. Oui. Okay. Et donc, il faut les identifier, il faut les traiter. On est là sur des comorbidités ou des causes ou des facteurs aggravants qui sont traitables. Donc, voilà, il faut les diagnostiquer et les prendre en charge.
Merci beaucoup. La dernière question. Merci, mademoiselle.
Oui, bonjour. Je m'occupe de ma mère, un peu le même profil. Depuis 2016-2017, j'ai constaté des difficultés neurologiques. Donc, j'ai commencé à consulter à la Thumone pour faire des examens. Et donc, elle a tout fait. Elle a commencé d'abord par un scanner, un IRM. Ensuite, on a dit non, on n'a pas assez d'informations. Il faut faire un PET scan pour finir par une ponction lombaire. Et au final, je ne sais toujours pas ce qu'elle a, malgré les symptômes qui correspondent à la maladie Alzheimer ou troubles autres que je ne connais pas, comme la maladie à col de Lévy. Et donc, je découvre tout ça. Et actuellement, j'observe, je vois bien les dégradations, je m'en occupe 24/24. Donc, c'est beaucoup de la perte de la mémoire immédiate. Et puis, de plus en plus, la notion du temps, la gestion au quotidien qui devient difficile. Et donc, voilà, je me demande comment connaître le diagnostic de ce qu'elle a, vu qu'elle a fait tous les examens et qu'au final, on ne sait pas me dire. On m'a parlé d'une dépression dans un premier temps. Et maintenant, actuellement, je me demande aussi sur sa souffrance, c'est-à-dire qu'elle ne m'arrête pas de me dire qu'elle veut partir. Donc, quand je vois tous les témoignages qui existent dans les EHPAD et de ce qu'on peut voir dans les unités fermées et aussi qu'il n'y a pas de traitement, qu'est-ce qu'elles deviennent et quelles sont les causes et pourquoi il y a de plus en plus de maladies d'Alzheimer et de plus en plus jeunes? Est-ce que dans la recherche, on prend ça aussi en compte?
Beaucoup de questions, hein, vous n'avez pas la réponse à tout.
J'y reviendrai, en plus je suis de Marseille. Vous savez, le diagnostic, c'est pour les maladies cérébrales, c'est voilà, on n'a pas toujours le diagnostic.
Il reste encore des maladies sans diagnostic ?
Non, il va y avoir un suivi. Et donc souvent, sur ces maladies neurologiques et potentiellement neurodégénératives, il faut attendre un petit peu, voilà, de voir un petit peu comment évoluent les patients, surtout s'il y a des intrications, si à la fois, par exemple, la dépression et puis possiblement une maladie dégénérative. Donc ces diagnostics qui ne sont pas simples. Ce qu'on peut faire avec efficacité aujourd'hui, c'est le diagnostic différentiel. Dire ce n'est pas une maladie d'Alzheimer, on a trouvé autre chose. Vous parliez d'une encéphalite ou d'un AVC ou d'un autre diagnostic. Par contre, parfois, effectivement, il existe des sous-groupes de patients. C'est vrai pour Parkinson, c'est vrai pour la maladie d'Alzheimer, où au terme du bilan, on n'a pas, chez tous les patients, je dirais, la réponse. Et voilà, il faut attendre un petit peu, avoir du suivi, refaire. Voilà, je sais que tout ça est effectivement difficile, je l'imagine bien.
Médecin peut dire à madame, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut arriver à dire, je ne sais pas.
Aujourd'hui, je pense que les médecins le disent, c'est probablement ce qui vous a... Enfin, je ne connais pas l'histoire, je dirais, personnelle. Mais parfois, effectivement, les biomarqueurs sont discordants, les anomalies sont intriquées. Et parfois, effectivement, on ne sait pas.